Bienvenue à la French Connection, épisode 82. Cette semaine, je suis avec Vincent.
Salut!
Patrick.
Hey tout le monde.
Damien.
Bonjour tout le monde!
Et Steve.
Bonjour à tous.
Bon. Et bonne année, Damien.
Ben oui. Ben...
bonne année, c'est vrai. C'est... Je viens d'arriver, moi.
Ben bonne oui. Santé,
moi, bonheur et énormément de poutine. Ça nous fait du bien à notre cœur et à notre petit ventre.
Et en plus, en parlant de poutine, je vais aller dans quelques jours aller goûter ce que l'île est capable de nous offrir comme poutine.
Ça va être alors, autant dire que c'est peut-être la dernière fois que vous entendez Nicolas, hein, vu que entre le moment où on enregistre et le moment où vous allez entendre, on sera peut-être tous décédés. Hein, donc, soyons très clairs.
Nous aurons l'occasion de vérifier si je suis à l'hôpital à Lille, on verra, on révisera à ce moment-là. Donc, on en profite pour le faire les slime slug en débutant. C'est 22-23, le FIC à Lille, ce qui est à nos portes. Au moment où vous allez écouter l'épisode, moi, je vais être rendu en Europe et sur le point d'aller assister à ça. Nous sommes supposés faire un épisode croisé avec mon limite sécu. On va faire quelques capsules spéciales telles que Damien nous a proposées. Ça risque d'être excessivement plaisant. Ils vont sortir pendant plusieurs épisodes de cet événement-là. Le 24 janvier, qui est pas tellement longtemps après, au Cégep Sainte-Foy, Québec sec, explorons le Malsain avec Imhotep, qui va être présenté par Vincent Tremblay. Et finalement, le 8 avril, Québec numérique présente le Secure, un événement de sécurité défensive. Donc, commençons avec les nouvelles. Damien, en Afrique, une chaîne de télévision se fait quand même avoir.
Oui, c'est très, très frais. Au moment où on enregistre, en fait, j'ai repéré ça dans l'après-midi. Alors, pour vous donner une petite idée de période, hein, on est là au moment de l'enregistrement, le 18 janvier. Et en fait, j'étais au boulot, de me promener sur différents médias en Afrique pour récupérer 2-3 sources, ou en tout cas vérifier certaines informations. Et je me suis retrouvé sur le site de la chaîne de télévision RTS. C'est la première chaîne de télévision généraliste publique sénégalaise. Et... voilà, j'arrive sur le site et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois un message déjà plutôt malveillant et puis des publicités qui me renvoyaient sur des sites divers et variés, mais en tout cas avec strictement aucune structure informative, hein, soyons très clairs. Et bien, encore, ça montre que ben, les médias, quels qu'ils soient, n'ont toujours pas véritablement réfléchi à leur cybersécurité. Et que là, c'est quand même un grand média africain. C'est un beau pays qui est le Sénégal. Et que toujours, on se rend compte que les médias sont encore possibles, pour certains cas, d'être infiltrés. Et puis surtout, ça touche énormément de monde, donc c'est plutôt inquiétant. Surtout que quand il y a piratage aujourd'hui, les gens ont oublié que leur image est particulièrement ternie. Alors non pas par le fait qu'ils vont infiltrer involontairement leurs visiteurs, mais c'est aussi dans les moteurs de recherche. Et quand vous tapiez RTS sur Google, eh bien, on avait ce fameux message qui dit « Il est possible que ce site ait été piraté. » Autant dire que pour la communication et pour l'image de marque, eh bien, c'est pas bon.
Mais tu soulèves un point intéressant puisqu'on aborde très peu le volet africain au niveau de la sécurité de l'information. Puis moi, je suis zéro connaissant de ce qui se passe là. J'ai eu quelques échos de gens dans mon entourage qui ont fait des petits mandats en Afrique dans certains endroits, pour me faire relater qu'ils sont malheureusement mal outillés, sont au regard de ce qu'on a comme occidentaux, sont au Moyen-Âge de la sécurité. Est-ce que toi, tu as un peu plus d'informations sur l'état plus réel? Puis je pense que Steve veut se prononcer là-dessus.
On en parlera avec Steve, justement. Hein. Je suis très étonné, je vais être très honnête. Hein. Ils sont en train d'évoluer d'une manière vraiment assez exceptionnel. D'abord parce qu'ils mettent des moyens. Je vais parler par exemple d'autres zones francophones de l'Afrique, et je prends par exemple l'Afrique du Nord avec le Maroc. Je suis épaté par leurs étudiants, je suis épaté par leurs capacités mathématiques. Là aussi où j'ai été épaté dernièrement, c'est qu'en informatique, c'est 50-50, mais 50-50 d'hommes et de femmes. Pour moi, alors je m'avance peut-être... beaucoup trop, hein. Mais pour moi, la future Silicon Valley, dans les 20-30 prochaines années, eh bien, ça pourrait pointer, je pense, du côté de l'Afrique du Nord, à suivre. Après, côté Afrique noire, moi, je connais un petit peu plus, justement, côté Sénégal, je connais un petit peu plus dans ces zones-là. Il y a des manques de moyens évidents, mais l'évolution fait que, comme tout le monde se connecte, comme tout le monde est dans ce numérique, ça évolue. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Steve, mais moi, c'est mon regard et ce que je peux rencontrer.
Je vais passer mon observation sur deux volets. La première, lorsque j'ai fait une visite en Algérie, j'ai été présenté pour la Garde nationale au mois de mars dernier. Et ce que je peux vous dire, là, c'est que vous avez des gens professionnels en possession de moyens modernes, d'être capables de faire de l'interception, d'être capables de faire de l'analyse et du forensics sur tout ce qui est électronique. Parce que le problème premier qu'ils ont à combattre, c'est l'élément terroriste qui arrive maintenant de tout bord, tout côté. Et par l'endroit stratégique qu'occupe l'Algérie et surtout les infrastructures essentielles comme la production pétrolifère sont grandement concernées à ce qu'il n'y ait pas de propagation davantage sur la mouvance terroriste et surtout aussi garder la main forte sur la population. Et en deuxième lieu, bien, c'est le déploiement de la Chine un peu partout sur le continent africain pour être capable de faire l'exploitation, surtout minière, mais en même temps d'être capable d'aller s'investir un peu partout. Et d'ailleurs, j'ai des amis qui servent présentement avec les Nations Unies au Mali et qui sont dans leur camp, le camp des Nations Unies, à proximité des Chinois. Et c'est les nations qui sont les plus préoccupantes pour être capables de dégratter un peu de l'information à gauche et à droite. Donc, sur un élément civil, par contre, on le voit de plus en plus, comme tu dis, Damien, les gens du continent s'informatisent. Je veux dire, ils s'ouvrent au monde. Il n'y a pas juste des princes nigériens qui veulent venir chercher notre argent, mais bien des gens qui sont compétents technologiquement parlant et qui veulent justement amener que ce soit la simple business ou même le pays au complet à participer et d'être davantage présent sur l'Internet tel qu'on le connaît, nous.
Moi, mon expérience, c'était plus du côté certains pentests de ce côté-là, puis c'était via gouvernement, puis pas mal égal à ce qu'on connaît en termes de sécurité au gouvernement ici et ailleurs. Je comprends exactement ce que tu dis, Steve. Je suis sûr qu'ils sont pas si en arrière que ça en général. Mais ils ont les mêmes problèmes qu'ici au côté gouvernemental. Ils étaient très en retard. Il y avait de la misère à faire des patchs. Des logiciels qui datent de 5 ans avec 12 vulnérabilités publiques. Le standard, quoi.
5 ans?
Attends, parlais de la Chine.
Ben, 5 ans, mais là.
T'as dit 5 ans, mais attends, 5 ans? Bon, c'est jeune, 5 ans, là.
Quand même. je pense que je l'ai déjà dit, c'est un certain podcast, là, qu'un certain ministère du Québec que j'avais analysé, qu'il y avait des bugs de justement, 5 ou 8 ans, parce qu'il ne voulait pas updater la prod. Je pense que c'était sur celui de Noël, avec le spécial avec Nick qu'on a fait. Ouais, pas de joke. Aucune update, il ne faut pas toucher à la prod.
Mais, excusez-nous, les gars, là, petit aparté ici. Tu vois beaucoup de clients, toi, Patrick. J'ai vu beaucoup de clients. Moi, j'ai déjà vu 30 ans. J'ai vu 30 ans, là, puis hey, go, on fait un virage innovation techno maintenant. Pardon. J'ai dit, vous avez un système legacy, là. Un Unix de là 30 ans, ça marche bien, là. Ça marche plus, là. 30 ans, ça, j'ai trouvé ça fantastique. Mais le client, moi, je faisais les états financiers, il n'y a pas de problème. Les états financiers roulent là-dessus. Go, les appros. Mets ça sur Internet. T'es informé. Il y a des problèmes, mais bon, gère ton risque.
Oui, tout à fait. Celle-là, je n'ai pas l'année, mais j'ai vu des infrastructures critiques au Québec. On s'est fait refuser les mandats parce qu'après, ils ont fait un appel d'offres public. On avait gagné le mandat, en tout cas, whatever. Et au final, ils ont refusé de faire le mandat parce qu'ils se sont rendus compte qu'un simple scan Nmap sacrait l'infra au complet à terre. J'ai jamais su l'année, parce qu'évidemment, j'ai pas pu participer au mandat, mais imagine le concept.
Bon, changeons de nouvelles avant de continuer.
Oui, juste un petit détail, c'est juste pour revenir un petit peu, Steve, à propos de la Chine. Dites-vous que si les Chinois s'intéressent à la Lune, c'est qu'ils ont déjà pompé l'intégralité de nos informations sur la Terre.
J'imagine que les lumières vont être un risque dans ce contexte-là. Donc, passons à la nouvelle suivante. Damien, 3 millions de francs ont été vendus sur le black market quand même.
Oui, tout à fait. Cette semaine, on a pu lire un petit peu partout dans la presse qu'une base énorme de données, plus de 900 millions de logs, se retrouvait donc en vente ou en tout cas se retrouvait sur des sites pirates. Je les ai analysés parce que, je vais être très honnête avec vous, cette nouveauté a quand même déjà plus de 7 mois, que les informations dedans sont des bases de données de sites divers et variés, souvent des petites et moyennes entreprises, on y reviendra d'ailleurs, avec des logs, hein, login, mot de passe, des mails, des identités. Et dans ce petit florilège, eh bien, je vais commencer à analyser un petit peu le truc. D'abord, il faut savoir que cette base de données, cette compilation, ce combo de données était vendu $45 hein, au mois d'août de l'année dernière. Donc, c'est pour vous dire aussi que les pirates avaient déjà tout pompé, tout ponctionné avant de lâcher ça dans la nature. Et pour la France, eh bien, il y a un peu plus de 3 millions d'identités de Français dans ces bases de données. Ça correspond aux alentours. Alors, par rapport à ce que j'ai pu compter, ça me retrouvait avec une petite centaine de PME, PMI. Et justement, pourquoi je voulais revenir sur ce sujet-là, c'est que c'est véritablement le gros problème. Ces petites entreprises qui sont souvent la force d'un pays, parce qu'ils ont plein d'idées, ils ont plein de motivations. Ils n'ont pas les moyens, malheureusement, de se sécuriser et ils sont souvent la cible, très clairement, de populations malveillantes qui savent que c'est souvent sous des WordPress ou en tout cas sur des petits CMS qui ne sont pas obligatoirement naturellement corrigés. Et puis ben là, c'est du pompage intégral. Et ben, le problème de ces données, c'est qu'elles ont maintenant une vie. Elles ont une vie dans les mains de ces pirates et que ben, ces gens, leur identité, leur réputation, elle était définitivement perdue. Donc, je trouve ça sympathique d'en parler, de dire « Oh, on a vu ça sur les internets, venez sur mon site, tapez votre mail et je vous dirai si vous êtes dans ces bases de données. » Moi, je préférerais plutôt qu'on ait des gens qui veillent dans ces black markets et qui préviennent les gens avant qu'il soit trop tard. Parce que là, dire « Venez voir sur mon site, tapez votre mail et vous verrez si vous êtes dans ces bases de données », c'est trop tard pour moi.
Hein. Mais rendu à ce stade-là, ça ne devrait pas être une agence nationale comme la CNIL, par exemple, qui devrait tenir un registre de ces choses. Au lieu que ce soit un tiers parti dans lequel tu dirais est-ce que mon courriel a été compromis ou mon identité était compromise, mais que ce soit la CNIL qui maintienne, ou en tout cas, on parle d'un contexte très français, mais peu importe l'autorité nationale qui maintient ça, ou quitte à ce qu'on ait une autorité internationale qui maintienne ça, qui est cette espèce de forme de registre d'un genre de wall of shame, un endroit où tu exposes, tu mets les gens, tu exposes les compagnies qui ont été comme ça, puis dans un contexte de RGPD, ça, tout ça s'articule dans un axe comme ça aussi, mais comme tu dis, les PME ne mettent pas d'argent, ils n'ont pas d'argent.
Mais c'est très compliqué aussi, parce que la CNIL, ce n'est pas son boulot, elle est là pour nous protéger, certes, mais elle n'est pas dans le black market, elle n'est pas dans des forums dingouins, il faut carrément de la veille. Là, aujourd'hui, toutes ces sociétés qui font de la com, qui font de la publicité autour de ces fuites de bases de données, c'est juste parce qu'ils les ont vus sur Pastebin, c'est juste parce qu'ils les voient sur des forums dingouins qui sont libres, ouverts. Le problème, c'est que c'est maintenant, il faudrait quasiment être proche de ces infiltrations malveillantes au moment où les gars ont des zéro day, au moment où les mecs les mettent en vente, où là, on pourrait éventuellement agir. Mais c'est très compliqué aussi. Ça voudrait dire récupérer toutes ces bases de données. Donc, ça voudrait dire aussi être complice de ces gens. Ça voudrait dire aussi être détenteur de fichiers dont on n'a pas l'utilité, l'usufruit surtout, l'autorisation de l'employé. C'est super complexe. Et en face, on a quand même des gens. Moi, j'ai encore des gens la semaine dernière qui me disaient « Mais vous avez vu, j'ai des pirates qui m'écrivent en menaçant, en me disant qu'ils vont soit me tuer, soit parce qu'ils m'ont vu tout nu, soit parce qu'ils m'ont vu sur des sites pornographiques. » Alors que d'abord, c'est totalement faux, mais surtout, ben, ces gens-là, on leur écrit parce que ces bases de données, ensuite, fuitent, elles se diffusent comme ça, une fois que les pirates ont tout manipulé. C'est super complexe. Je pense qu'il va falloir un moment aussi qu'on prenne, non plus par la main, mais par les oreilles, et toutes ces sociétés qui lancent des sites Internet et qui pensent plus au marketing, aux jolies lumières rouges qui vont attirer comme les mouches les clients, et qui se disent « Bon, ben, la base de données, elle est protégée. Regardez, j'ai eu le cas la semaine dernière. Hein, j'ai une agence de communication qui me dit « Ah, mais nous, on sécurise nos clients. Regardez, on leur impose un mot de passe de 8 chiffres. » Et dans ma tête, je me suis dit « Mais 8 chiffres, c'est juste la date de naissance. »
Ah, tout ça est relativement épouvantable, mais à ce moment-là, ce qu'on devrait se ramasser avec une espèce comme au Québec, on a la RBQ, là, la Régie du bâtiment, qui énonce un ensemble de règles minimales que les gens doivent suivre.
Tu vas tomber dans du compliance encore. Si tu vas dans ce sens-là, tu vas cocher des boîtes, des petits checkbox, des listes, whatever, puis tu vas être « Hey, je suis compliant à ça, puis je me fous du reste, donc je ne suis pas sécuritaire, encore une fois. »
Il y a quelqu'un qui dévie l'essai du chemin qui doit servir.
Oui, pas juste ça. Puis c'est ce qu'on voit sortir présentement, puis sans faire de pub à certaines compagnies, mais il y a beaucoup de compagnies qui vont aller faire la recherche sur le dark web pour les autres. Là, tu dis que c'était compliqué justement, tu sais, d'aller voir dans certains forums parce que t'es complice, etc. Je comprends que c'est très gray line, mais t'as des compagnies qui spécialisent là-dedans, qui vont aller downloader tout ce qui est sur le black market, les pastebins, les whatever. Ils vont te vendre ce service-là un peu à la Avabin Pound, le truc des leaks de password. Puis en prouvant que tu es quelqu'un de légitime, whatever, ben ils vont te donner l'information reliée à ça. Fait qu'on s'en va quand même dans ce côté-là d'un genre de threat intelligence, mais sur le côté black market, ce qui est intéressant, mais tu as raison qu'il y a quand même une ligne très grise là, reliée à ça.
Et puis moi, je les invite, tous ces gens qui disent « nous, on infiltre le black market avec nos outils d'intelligence artificielle, avec nos robots qui visitent le black market. » Ok, les gars, alors vous allez montrer comment votre logiciel va rentrer, par exemple, dans le black market kick-ass, et on en reparle.
Ouais, c'est ça, parce que tu as beaucoup de concepts aussi de trust, d'avoir un mot de passe, d'avoir quelque chose pour aller plus loin. C'est beau d'avoir des forums publics. Forum public, c'est très public, hein? Un robot, c'est facile, mais c'est pas toutes les meilleures infos qui sont sur un truc public.
Ouais, ben, je sais à quoi Damien fait exactement référence dans ce cas-ci. Oui, et à qui à mettre le chapeau mettra le chapeau en conséquence. Passons à la nouvelle suivante. L'armée française annonce vouloir s'armer contre les cyberagressions.
Oui, ça y est, l'armée française a décidé de rendre public le fait qu'elle va se créer une armée, une cyberarmée. Alors, ça a été annoncé le 17 janvier hein, par la ministre française des armées, c'est Florence Parly, et le chef des états-majors des armées, c'est François Lecointe, hein, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité. Alors, ça y est, la France a décidé d'afficher une cyberdoctrine militaire offensive. Alors, bilan, ça veut dire que l'Hexagone ne veut plus hein, tendre la seconde jupe, on se prend une claque numérique en tout cas. Ils ont vraiment clairement annoncé donc, cette cyberarmée. Alors, pour information, ça fait déjà 4 ans hein, qu'elle est annoncée. Trois ans, plus exactement. En 2017, déjà, on nous annonçait 3200 experts qui avaient pour mission de lancer des ripostes en cas de cyberattaque. Aujourd'hui, on nous annonce donc. On nous annonce recruter 1000 cybercombattants sur les 7 prochaines années pour enfin atteindre le chiffre de 4000 personnels. En 2018, par exemple, 2 incidents de sécurité par jour ont été recensés par le ministère de la Défense, contre le ministère de la Défense. Ils ont parlé aussi des attaques contre des opérations militaires. Il y a même eu un hôpital d'instruction des armées qui a été attaqué. Bon, d'accord. Donc, cette cyberarmée se met en place avec des recrutements sur 7 ans. Voilà, c'est la France se met en marche. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je suis très clair et très honnête avec vous, même si on sait qu'on a des gens compétents, très compétents même. On a, nous, par exemple, ici, la DGA, la Direction Générale des Armées, qui comporterait aux alentours de 400 personnes autour de la cyber. Bon, voilà, la France est en marche. Alors, tout ça a été décidé par une loi de programmation. On appelle ça la loi de programmation militaire 2019-2025. Et donc, ça prévoit le recrutement d'hommes qui auraient déjà dû être engagés en 2017. Donc voilà, à suivre. Alors, ils annoncent aussi un petit peu de pépette, hein, un petit peu d'argent. 1,6 milliard d'euros pour le cyber sur ces 7 ans. Est-ce que ce n'est pas un petit peu trop peu?
Ben, ça suit la mouvance là-dessus, Damien, où ce que encore une fois, au Canada, on est avec une petite collection de gens, de professionnels là, qui se font entraîner, mais que l'entraînement se poursuit ad vitam aeternam. C'est long, c'est progressif, mais ça s'en va dans la bonne direction. Mais il reste toujours bien que le chiffre magique de 300 que le Canada se promet d'avoir d'ici quelques années d'opérateurs en cybersécurité, vraiment pour faire du cyber ops, ça va être encore une fois pour un usage très limité, malgré que le SCRS recrute pour avoir des capacités offensives, des capacités d'analyse supplémentaires. N'en demeure pas moins que très bien, la France, au prorata de sa population et ses implications internationales, va avoir une meilleure vision, une meilleure capacité de répondre à la menace.
Mais ils sont en avance aussi, en plus.
Comment tu dis?
Ils ont commencé ça il y a longtemps. C'est oui. Nous, on commence.
Bien, autant, je veux dire, au Canada, depuis, tu sais, je peux témoigner depuis une vingtaine d'années, là, je veux dire, les gens sont à l'écoute, sont présents pour comprendre ce qui se passe sur les internets. Mais il reste toujours bien que pour en faire vraiment des missions spécifiques envers et pour souvent là, des mandats très précis. Oui, là, c'est à ce moment-là, c'est la portion publique là, qui se met de l'avant. Tous les pays industrialisés, comme je disais dans le podcast précédent, je veux dire, possèdent des capacités comme ça de guerre d'information et ça va lui permettre d'être un peu plus malléable où est-ce qu'ils vont les utiliser. Cependant, l'émission comme ça, là, je veux dire, plus qu'on est dépendant de cette information, autrement dit, on dépend beaucoup plus de ce qui se passe sur ce qui se transige sur les réseaux électroniques qu'on le voit avec les médias traditionnels, ce qui veut dire nécessairement que ces opérateurs-là, ben, ils vont être appelés à intervenir davantage. Et surtout, l'automatisation de la société, c'est une conséquence directe d'avoir des gens spécialisés comme ça.
Donc, c'est plutôt rassurant. Moi, je vous le dis, hein, quand j'entends ça, je me dis que voilà, c'est enfin en marche. Alors, vous me dites si je me trompe, mais je crois que les Américains, en septembre de l'année dernière, 2018, ils avaient eux-mêmes aussi sorti un dossier, je ne sais plus, je crois qu'il y a une quarantaine de pages, où ils annonçaient aussi leur doctrine militaire offensive. Donc là, c'était plus pour faire claquer les fesses à l'Iran et à la Chine, ou à la Russie, enfin, d'ailleurs à tous les ennemis potentiels des Américains. Mais c'est intéressant de voir que maintenant, ça y est, les pays le disent officiellement. OK, avant se défendait, mais maintenant, on est capable aussi de éventuellement vous répondre.
Bon, mais tout le monde le faisait offensivement, là, ça fait des dizaines d'années, et il était juste poli et évasif sur de ces opérations-là. Mais ça, écoute, là, je l'ai vu en Haïti, comment ça s'est produit, surtout en Bosnie, de prendre contrôle du PBX du pays, puis être capable de faire sonner les téléphones en même temps, puis dire de déposer vos armes, là, un peu comme les pamphlets qui sont tombés durant la Deuxième Guerre au-dessus de la France. Je veux dire, c'est des capacités qui sont comme ça aujourd'hui que tous les pays industrialisés ont ces gens-là. Et s'ils ne les ont pas, sous le feuille de paye, je vais pas dire, mais sous le salaire, mais rien ne les empêche d'aller contractualiser, entre guillemets, des ressources à l'extérieur. Puis on sait très bien qu'il y a quand même un gros marché sur des white gray hat hackers qui se veulent d'être patriotiques quand que le prix est bon.
Oui, puis le hacking team de ce monde là, qui vend des logiciels d'espionnage à des pays, des polices et autres. Tu dis que ça fait une dizaine d'années que c'est comme ça, c'est vrai. Même au Black Hat, il y a une dizaine d'années, Nick, si tu te rappelles, ils parlaient de DHS étant en keynote, puis ils parlaient de leur recrutement cyber, puis de leur manière qu'ils mettaient ça en place. Ils n'étaient pas très transparents sur tous les détails, mais tout le monde a compris qu'il y avait une offensive qui était en place. Ça, c'est la même chose que quand on parle, les pays font de l'espionnage. Ils en font tout, mais ils s'en vendent pas tous, évidemment.
Oui, il y avait un moment, je pense que c'est la France, quand il y avait eu une espèce de scandale avec les États-Unis qui écoutaient de mémoire, puis là, il y avait été des énoncés qui avaient été faits. Puis là, il y a des politiciens qui se sont fait rappeler que la France aussi, même si elle ne le disait pas ouvertement, participait à ce genre de choses-là. Donc, c'est jamais aussi propre que ça, mais au moins, dans ces annonces-là, il y a une certaine forme de structure où on va mettre ça plus propre, officiel. Et à ce moment-là,
ça a l'air moins mercenaire, si on peut dire.
Ouais, comme ça, c'est un peu plus propre comme ça.
Et ça justifie du coup les budgets. Parce qu'avant, quand c'était en mode mercenaire, réclamer de l'argent pour ce genre de choses, ça commençait à faire tiquer les politiques et les chefs. Tandis qu'aujourd'hui, on structure, on met ça noir sur blanc et on peut justifier maintenant de véritables budgets pour nous protéger.
On peut même ajouter qu'il était des budgets pour être capable d'opérer.
Oui, puis Steve, tu étais dans l'armée, tu peux peut-être pas en parler, mais tu sais comment ça fonctionne. Les budgets apparaissent, mais dans des endroits qui ne sont pas supposés d'être.
Puis ils disparaissent aussi vite des fois.
Oui, même concept. Ils vont acheter des chaises, mais c'est pour financer d'autres choses, évidemment.
Ben, voyons alors de quoi tu parles.
Ou des marchés de 150
Ben, cela étant, c'est au moins une structuration. Au niveau de la doctrine aussi, c'est très intéressant puisque ça encadre, puis c'est peut-être plus ça l'aspect le plus intéressant à l'intérieur de tout ça, c'est que la propreté, c'est juste qu'on se donne des règles claires et uniformes et non au plus fort la poche, puis on met des argents publics dans les mains, des fois, de gens un peu moins scrupuleux, avec des agendas un peu cachés de ce genre de choses-là. Donc, Steve, il y a une conférence qui est donnée par l'UQAM.
Absolument fantastique conférence qui est annoncée à l'UQAM dans le cadre du groupe de recherche en cyberdiplomatie et de cybersécurité. C'est une amie que j'ai rencontrée il y a quelques années à l'université qui s'appelle Karine Pontbriand, qui fait présentement son doctorat en cybersécurité. Et lors de ce forum qui s'intitule « Cyber Security Across Borders, State of Play in Cyberspace Governance and Protection in Canada, the United States and the World ». Autrement dit, c'est une conférence où on va y trouver des gens du métier, où nous allons discuter et présenter sur la protection des infrastructures essentielles. Sujet quand même assez d'actualité parce que De plus en plus, nos infrastructures essentielles sont vieillissantes. On ne retrouve plus la sécurité qu'il y avait d'antan, dans le sens que c'était l'obscurité par la sécurité par l'obscurité. Et là, aujourd'hui, ben, on se retrouve avec des valves automatisées ils n'ont aucune sécurité qui sont implantées dessus, mais qui continuent à fonctionner 30, 40 ans après qu'elle a été mise en place. Et il y a tout cet élément-là de demander, il faut arriver à ce qu'on arrive à mettre ça de façon claire et concise, qu'il faut les protéger. Donc, les quelques sujets qui vont y avoir lieu, je veux dire, c'est une conférence qui dure toute la journée à Montréal. On m'a dit que c'était déjà sale comble et je pourrais vous en faire un résumé lors de notre prochain podcast. Mais entre autres, on va discuter sur l'évolution des stratégies de cybersécurité au Canada ou aux États-Unis principalement, protection des infrastructures essentielles contre les cyberattaques, cybersécurité pour tous, comment est-ce qu'on amène l'élément humain à s'améliorer là-dedans, l'ethical hacking, et après coup, on devrait avoir à ce moment-là quelques gens de notoriété qui vont être présents là-bas, dont l'ancien numéro 3 du Cyber Defense Command, qui était à ce moment-là, qui est un Canadien qui a pris sa retraite, général récemment, qui va faire partie, j'ai un de mes anciens patrons, qui va faire partie de la discussion là-bas. Fait que c'est très intéressant, qu'est-ce qu'on va se retrouver. Même aussi M. Luc Dandurand, qui est un ancien qui était à la tête vraiment d'un groupe de recherche de l'OTAN, à l'école aussi de l'OTAN à l'Estonie, qui a travaillé beaucoup sur beaucoup de politiques comme ça internationales, mais qui va amener justement, d'après moi, un éclairage quand même un peu plus intéressant sur les pourquoi du corps.
Très intéressant. Justement, j'ai hâte d'entendre ce résumé-là que tu vas nous faire pendant la prochaine séance, quitte à ce qu'on peut-être en fasse un épisode spécial justement sur ce sujet-là. On reverra sur ce genre de choses-là. La Chine s'en prend à tous.
Oui, mais dans le contexte que la Chine maintenant, j'ai trouvé un article fort intéressant cette semaine qui laissait entendre que la Chine maintenant, qu'est-ce qui bouillonne avec Huawei. C'est Huawei, c'est figuratif, qu'est-ce que je vais amener là, c'est Huawei se veut d'être le sous-marin nucléaire de la Chine. Et là, parce qu'on en parle de plus en plus, c'est-à-dire avec l'arrestation de la CFO, Mme Ming, à Vancouver, qui se veut d'être prochainement extradée, si tout va bien avec la paperasse, parce que par le 30 janvier, il faut qu'il donne une réponse, on est obligé de faire surface et d'être capable de parler des intentions réelles de qu'est-ce que fait notre fameux Huawei. Et ils s'en prennent à tous et chacun parce que c'est pas juste par rapport à Huawei qui se passe des trucs. La Chine veut dire s'en prend aussi au Japon pendant ce temps-là. Le groupe Advanced Persistent Threat numéro 10 qui ont été vraiment sans se servir dans les coffres du Japon pour encore une fois de l'information politique, politico-sensible pour le besoin de négociation dans ce coin du monde-là. Parce que pour nous ici, dans le Pacifique, là, ça a l'air loin et ça nous concerne un peu. Mais au contraire, il y a beaucoup de géopolitique qui se brasse à haut niveau là-bas. Et c'est certains qui veulent être capables de mettre la main sur le maximum d'informations pour être capables de rencontrer des gens et de jaser avec les homologues de façon avantagée avec l'information qu'ils ont en avance, comme qu'ils font souvent.
Et tant qu'à rester dans le Pacifique, Damien?
J'ai retrouvé mon actualité, ne quittez pas. Oui, alors plus sérieusement, ça s'est passé en Australie. Alors, ils ont ce qu'on appelle un centre d'alerte, le EWN. Sa mission, alors c'est le Early Warning Network. Sa mission, c'est en cas de problème, attentat, problème météorologique, problème de tremblement de terre, peu importe, eh bien, ils sont capables d'alerter, et alerter les populations, en tout cas toutes les personnes, toutes les populations qui sont inscrites. Et bien sûr, comme par magie, on a encore un piratin, hein, un petit pirate qui s'est invité, sauf que du petit malveillant, du petit casseur, du petit tagger, ce qu'on veut, eh bien, il a quand même envoyé des milliers de messages d'alerte aux inscrits. Alors, heureusement, on n'est pas tombé sur un pirate dont l'intelligence économique ou politique était vraiment prononcée. Il a simplement envoyé un message en disant « Vous avez tous été piratés. You have been hacked. » Le problème, c'est que imaginez si on avait ce genre d'outil dans les mains d'un terroriste qui décide d'alerter toutes les populations en leur disant « on se rejoint tous » ou « rendez-vous tous dans telle ou telle salle de sport, de spectacle, ou en tout cas un lieu où vous serez en sécurité ». et que ce soit là, véritablement, le lieu de l'attentat. Donc voilà, on se rend compte que ce genre d'outil est particulièrement très important hein, pour aider les populations en cas de problème. Mais il faut véritablement penser à les sécuriser d'une manière un petit peu plus radicale, parce que là, ça pourrait véritablement devenir un vrai problème. Juste le bloquer où il y aurait, par exemple, véritablement un accident, je ne sais pas, une centrale qui explose, un problème de tsunami, peu importe, et que là, on ne puisse pas du tout prévenir les populations. Là, on rigolerait beaucoup moins en plus.
Bah, moi, ça m'a toujours inquiété, ces systèmes-là. On a un au Canada qui vient d'être déployé, justement, un système qui nous envoie des textos forcés sur nos différents appareils. C'est un peu troublant de mettre ça dans les mains des télécommunicateurs et d'agences qui, peut-être, ne gèrent pas nécessairement la sécurité à la hauteur de ce genre de choses-là. Puis, de toute apparence, en Australie, on voit clairement que ce système-là a failli. Il n'est pas dit qu'ailleurs dans le monde, ça ne faillira pas non plus. Qu'au Canada, le système qui a été mis en place n'est peut-être pas robuste. Oui, Steve?
Ben, ce qui est ironique là-dedans, c'est que Environnement Canada a pu, depuis les années 70, une radio météo qui est, comme les Américains l'ont aussi avec les Noirs, à travers l'Amérique du Nord, et est capable d'avertir avec beaucoup plus de précision qu'est-ce qui peut être dangereux environnementalement parlant. Québec en alerte, qui est géré par Québec, parce que c'est au Québec ici, mais c'est Canada-wide. Palmorex, qui est la compagnie en arrière, je veux dire, ils ont eu beaucoup de bévues, beaucoup de difficultés à avoir la collaboration, plutôt l'intégration avec les télécoms, pour être capable de nous pousser ça sur nos cellulaires, comme tu dis. Mais comment une fois qu'on a vu aux États-Unis des billboards en périphérie des autoroutes se faire hacker, encore une fois, parce qu'il n'y a aucun protocole pour vérifier qui fait quoi, je veux dire, ils ont été capables de déclarer des apocalypses de zombies, et toutes sortes de messages loufoques pour justement montrer que le système n'est pas fiable. Et oui, c'est encore une fois remis à l'entreprise privée sans aucune accréditation, sans aucune vérification de conformité de leur choix.
Ouais.
Et c'est ça, je trouve, que c'est encore une fois de l'improvisation. Je veux dire, il y a une intention politique plutôt d'amener ça. Oui, d'avertir les gens en cas de problématique régionalisée par zone de réception, c'est parfait. Mais c'est ça que je parlais avec les gens qui travaillent à Environnement Canada. Je veux dire, le système de radio qu'on a à travers l'Amérique du Nord rejoint 98% de la population. C'était déjà en place. Il n'y avait pas grand-chose à intégrer pour être capable qu'on aurait pu en profiter. Ça travaille sur des bandes VHF? Oui, parfait. C'est pas sous le cellulaire de monsieur et madame tout le monde? Ou non. Cependant, c'était quand même... la radio était très bien implantée dans toutes les zones, partout où il y a des gens, et au-delà de la couverture cellulaire. Fait que c'est là que j'ai toujours pas trouvé à ce jour argument des officiels pour avoir justifié des dépenses comme ça pour intégrer ça. Oui, ça va être parfait. Les gens sont satisfaits. Il y a eu un événement grave, mais vous savez, il va y avoir une pluie de... Juste avant une tornade, je veux dire, c'est, puis pour la tornade, on l'a vu en action lorsqu'il est arrivé dans l'ouest de l'Ontario, dans l'ouest d'Ottawa. Mais quand il y a des orages graves, quand il y a des tempêtes sévères, comme on va avoir possiblement dimanche, il n'y a aucun avertissement qui va transpirer de ce réseau-là. Pourtant, il y aurait lieu d'avertir les gens d'arrêter de faire des fous sur la route, de prendre le temps, de ralentir, etc. Mais comme on l'a vu vendredi, je veux dire, il y a une dizaine dans la région de Montréal d'accidents, juste parce que les gens ne sont pas adaptés à leur conduite, puis ça va être la même chose demain. Multitudes vont prendre le chemin. Faites attention, messieurs, dames. Quand vous prenez la route en hiver.
Oui, tout à fait. Puis je pense que ton point sur le concept que c'est des compagnies privées qui ont ça est le plus gros problème d'intégration de ça. Parce que la sécurité du système va être basée sur les normes gouvernementales et même à ça, simplement sur ce qui a été mis dans l'appel d'offres, qui est généralement peu de sécurité. Puis quand on parle de cellulaire, bien, on le sait, le nombre de vulnérabilités, de downgrade du 3-4G vers le 2G, puis après, si on parle de SS7 qui est possible d'attaquer assez facilement, si tu connais comment, ça prend du temps, mais ça se fait. J'attends ma première alerte qui va être fausse d'ici peut-être 1 à 5 ans. C'est sûr que ça va arriver à un moment donné.
Ah, puis ça a été fait, je veux dire, c'est à San Francisco, ils ont été capables de prendre contrôle du réseau d'alerte de la ville au complet. Et qu'ils l'ont testé, ils l'ont fait justement le hack comme ça, et à ce moment-là, les autorités étaient dans l'embarras pour être capables de.
Oui, évidemment, c'était même pas attaquer le réseau cellulaire, c'est attaquer la boîte qui envoie le message vers le réseau cellulaire. Donc, si on parle de ça, Québec, Canada. Ouais,
c'est toujours d'attaquer le maillon le plus faible.
Le maillon plus faible, oui.
Et le fournisseur privé qui fait mal ses affaires, ben, c'est lui qui va être utilisé.
Oui, il envoie un email de Social Engineering, puis c'est presque game over. Puis même à ça, même si on oublie le concept d'attaque, on a vu. ce que Hawaii a fait, qui est une erreur humaine de quelqu'un qui a envoyé un message qui n'était pas vrai. Fait que, tu sais, on part de loin. Il n'y avait même pas le système de contrôle de mise en place. Ouais, je sais que c'est plus ou moins. Mais ça reste qu'il y a eu une erreur pareille.
Ah, mais disons, si on regarde la suite, puis j'ai trouvé ça très intéressant que Steve amène ça, le fait des réseaux qui sont utilisés par NOAA mm-hmm. puis Environnement Canada, qui sont en VHF, l'utilisation de la radio amateur, l'utilisation de ces fréquences-là, qui n'est plus tellement à la mode, contrairement, puis une diminution très marquée des gens qui existent dans ces environnements-là. C'est quand même intéressant de voir qu'on a des vieux réseaux fiables, malgré tout, qu'on n'utilise pas parce qu'on préfère le dernier objet brillant qui est, dans ce cas-ci, nos cellulaires. Ouais.
C'est comme le concept du mainframe qui marche bien, mais qu'on s'en va vers du .NET. Là. Il y a beaucoup de projets gouvernementaux.
Wow. Il y en a plus ce genre de choses-là, mais c'est juste parce qu'ils veulent mettre une couche. Ils n'aiment pas le 3270, c'est qu'au lieu de juste mettre une couche de présentation adaptée, ils vont modifier le système au complet. C'est un peu... c'est comme genre changer sa maison parce qu'on veut changer la couleur de ses murs. Là. Non. J'ai de la peinture, c'est un peu moins cher. Puis les murs changent de couleur une fois que l'application est faite, c'est quand même bien. C'est tout ça. Puis on va switcher à la nouvelle suivante. Les équipements de contrôle industriel qui sont d'une très grande faiblesse. Chose qui était connue, mais il y a quand même des démonstrations qui sont de plus en plus lourdes dans ce sens-là.
Ben oui, parce que là, on parle de vraiment, il y a un très beau document qui a été pondu par Trend Micro cette semaine. Il a repris par Thomas Brewster de Forbes. Sur comment c'est facile de hacker une grue dans un chantier de construction. Je veux dire, de plus en plus, les grues aujourd'hui sont télécontrôlées. Télécontrôlées, ça veut dire qu'il y a un module sans fil dans le 400 MHz et l'opérateur peut être complètement à côté, je veux dire, à distance du chantier pour soit des raisons de sécurité ou tout simplement parce qu'il a besoin d'être à deux places en même temps et ils ne peuvent pas se permettre un opérateur dans la grue. Et il est au sol, et vous irez voir les vidéos, il faudrait la joindre, ça serait super, parce que c'est très bien fait comme documentation. Et la vidéo le montre tellement bien, comment est-ce que c'est facile d'aller changer, justement, le processus de séquence, parce qu'il n'y a aucune, encore une fois, validation des commandes, ça vient de quel appareil. Et il y en a une, très simple, c'est repérable à travers le sniffing qui est fait du trafic aérien qui est envoyé entre les deux machines, et après coup, c'est quelques bits d'informations qui sont à changer, et la grue de plusieurs centaines de tonnes est capable de se déplacer à la bonne volonté de l'opérateur pirate qui en prend possession. Je veux dire, c'est connu, encore une fois, dans l'environnement, puis on construction comme n'importe quoi d'autre, et encore, les gouvernements ne prennent pas l'initiative, justement. Puis, tu sais, je lançais ça cette semaine, où ce que on se fait écœurer, excusez de dire ça comme ça, dans les magasins, je parle pour les fabricants, les distributeurs, qu'on a un set de lumières de Noël, il faut qu'il soit approuvé par le CSA, le Canadian Safety Association, qui, eux, vont s'assurer que ça consomme tant d'énergie, ça ne mettra pas le feu au sapin, des choses comme ça. Puis on n'est même pas capable d'aller certifier un code qui va aller gérer des tonnes et des tonnes de matériaux sur un chantier de construction. Là, c'est là que ça me dépasse et les cheveux me tombent.
Bien, on est exactement dans le même... puis là, tu parles spécifiquement de ce genre d'environnement-là, l'utilisation des radiofréquences, et les gens pensent que c'est magique, personne ne peut aller écouter. Là. On a juste à s'acheter des systèmes SDA, puis c'est fascinant ce qu'on peut y trouver et ce qu'on peut y faire. Il y avait, puis dans la même lignée de ce que tu disais, disons, il y a quelques années, j'étais à l'hôpital, puis j'avais des systèmes de télémétrie sur moi. Puis j'imagine que ce système de télémétrie-là devait envoyer mes vitaux de façon non chiffrée directement à la centrale qui me surveillait à ce moment-là.
Donc, ça devait être sécure en web, tu sais.
À la limite, mais je pense que si j'avais m'amusé à regarder le module qui émettait, puis c'était pas du Wi-Fi, c'est une fréquence non standard, donc c'était un protocole non standard, comme exactement tu parlais pour les dites grues. Fait que c'est le même genre de choses. Ils ont pris une fréquence d'un 400 MHz qui est enregistrée pour leur équipement, puis dès lors, ça broadcast dans le néant. Fait que si j'arrivais, puis je regarde de ce niveau le trafic, je serais capable d'envoyer des mauvais signaux et créer une forme de panique, disons, dans certains secteurs de l'hôpital qui utilisent des équipements de télémétrie sur les patients qui résident là. Ce qui est malheureux en soi parce que ces équipements de télémétrie-là donnent une certaine mobilité au dit patient parce que c'est pas pogné dans ton lit. Mais en même temps, si c'est pas sécurisé correctement, on a le problème. Puis quand même, les équipements comme les pacemakers, les équipements de diabète, ça, sont reconnus comme étant non vulnérables. Dès lors, on est dans le chemin, puis je pense qu'on n'est pas proche d'arriver ça. Puis effectivement, puis j'en faisais une référence tantôt avec la CNIL, entre autres, pour les fuites de données. Mais cela étant, il nous faudrait une entité, même si c'est de la conformité, minimalement rehausser le niveau de l'eau à un niveau qui permet qu'on ne soit pas dans marde, comme on est à peu près à l'heure actuelle. Puis en parlant d'être dans marde, la Maison-Blanche, les systèmes ne sont pas nécessairement sécuritaires entre autres, des coupures du présent président.
C'est assez ironique parce que le président, la Maison-Blanche avec l'administration Trump ont mis à la porte le Chief of Information Officer officiel du gouvernement américain. Et depuis ce temps-là, c'est ça, il y a des fuites, il y a des systèmes qui fuient d'informations, justement. Et ça fait en sorte que ça donne une idée que c'est bric-à-brac, ce qui se passe là-bas. Au lieu d'être une référence, normalement, on va regarder, mettons comme le pays aux États-Unis, vont regarder envers la Maison-Blanche pour être quand même l'autorité en matière de stratégie, de direction et surtout d'action, pour que ça soit clair qui a affaire quoi. Et là, si on se rend compte que le top, il n'est pas capable de gérer au quotidien des services de courrier électronique et que ça soit sécuritaire, on peut s'imaginer que c'est là que ça laisse le petit goût amer sur qu'est-ce qui pourrait être le reste de l'organisation. Donc, c'est assez troublant et ça me fait penser justement, Nico, lorsqu'aujourd'hui encore, on arrive dans je ne sais pas trop combien de sièmes journée du shutdown aux États-Unis, ben, il y a des services où il y a des certificats électroniques qui n'ont pas été renouvelés, des sites HTTPS donc ne sont plus accessibles. Et là, on a des noms de domaines qui s'en viennent à échéance du gouvernement américain. Et qui
ouf, ça va coûter cher, ça.
Imagine là, si on va faire un petit recensement et on fait des achats comme ça. Là. Ça va être intéressant de voir comment ils vont se débrouiller avec.
C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être automatisées. Ouais.
Plus je vois les décisions de Trump et plus je croise d'extraterrestres.
c'est peut-être. Mais cela étant dit, heureusement, les points gouv, puis c'est le seul privilège qu'ils ont, c'est que ce soit vraiment une entité fédérale pour réussir à faire ça. Fait que son, minimalement protégés par ce genre de choses-là, ce qui les sauve un tantinet, ce que les autres pays ne peuvent pas se prévaloir autant que les États-Unis peuvent le faire.
On ferait bien, nous, avec un petit podcast .1000.
Oui, tout à fait. Puis, mais le bug ne sera pas sur les .gov, comme tu dis, mais les sites vers lesquels ils référencent, que le gouvernement possède. T'sais, ils ont beaucoup de publicité qui est... Je n'ai pas d'exemple concret, mais...
Ben, le gouvernement américain, ils ont pas mal des points gouv ou des points 1000. Ça, pour ça, je leur dois ça, mais c'est juste parce qu'ils possèdent les registraires initiaux de ça, puis c'est vraiment la seule raison qui les protège encore sur ce genre de choses-là. Mais de façon plus personnelle, ce qui mérite énormément de shutdown, c'est que le NIST n'est plus disponible. Ouais, et ça froisse énormément. Quoi. Parce que j'ai beaucoup de documents de référence que j'utilise là, puis c'est mort.
C'est drôle que tu dises ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur LinkedIn qui disent « on s'en fout, c'est juste un site statique, puis personne ne lit ça, il n'y a aucun impact sur rien, et blablabla. Bla, »
C'est le faux d'impact. Pour un nom américain, pour un nom américain, il y a même d'impact, je suis fru.
Solide, là.
Tu parles du NIST? Il y a un nouveau cadre de référence qu'ils ont annoncé dernièrement, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Au moment.
Sûrement il y a 1 mois parce que les shutdowns ne font plus rien.
Puis c'est un cadre de référence qui m'intéressait. Puis, écoute, c'est un miracle. Il est venu, le site est revenu up à un moment donné, il y a à peu près 2 semaines, puis j'étais capable de télécharger le cadre de référence. Donc, de façon intermittente, j'ai l'impression que c'est un jeûne intermittent que le NIST est en train de faire, là.
Oui, il y a possibilité, c'est sûr. Et, ils ont prouvé, il y a eu un gros thread sur Twitter à propos de ça, que le NIST, c'est juste un site statique, puis blablabla, il n'y a aucune raison que ça aille offline. Après, tu as du monde du gouvernement qui sont rentrés puis qui ont expliqué que oui, mais il y a quelqu'un qui s'en occupe en arrière, il y a des serveurs à payer, et blablabla. Et qu'ils justifiaient que c'est pour sauver de l'argent, mais ils mettaient tout offline. Mais ça a plus ou moins de sens, je veux dire. C'est pas vrai que le budget à 100% est disparu parce que dans les les arrêts du gouvernement précédent, ils ont repayé au complet tout ce qui était les payes et tout dans la pause. Fait qu'il y a moyen de faire ça. Ça. C'est clairement un moyen de pression en partie. Là.
C'est pas du monde essentiel. De toute façon, tu regardes le NIS parce que
non, c'est pas essentiel.
J'ai fouillé le site. Il y a des sections du site qui sont encore online parce qu'ils sont financés par des budgets qui ne sont pas coupés. Et les sections qui sont financées par les budgets qui sont coupés, eux, ont été shut down. On peut effectivement, comme tu dis, débattre sur le fait que c'est plus ou moins valable ce qu'ils disent, ça, mais à la limite, c'est comme un lockdown. Fait que les employés ont comme...
Oui, ils suivent la note d'en haut. C'est comme on ferme.
C'est des mesures d'opposition face à ce genre de choses-là. Fait que j'imagine que jusqu'à un certain...
C'est plus ça, oui. Exact.
Mais il n'empêche qu'ils respectent le mot d'ordre, qu'on shut down parce qu'on n'a plus d'argent, même si l'argent va revenir plus tard. Donc, fait que ça pénalise tous ceux qui s'appuyaient sur le cadre de référence que, entre autres, le NIS. On en a parlé dans un autre épisode ou dans un off-épisode sur le fait que le NIS est un élément très utilisé puis très utile. Puis là, on vient d'enlever dans les mains de plein de monde un cadre de référence qui est largement utilisé en sécurité. Fait que c'est un peu dommage.
Oui, tout à fait. Mais hâte de voir s'il va y avoir des répercussions en termes de sécurité, de brèches de sécurité dans le gouvernement. Parce que juste le concept d'HTTPS qui disparaît, qui passe date, etc., mais on s'entend qu'il y a sûrement beaucoup de ministères qui mettent pas à jour leur système. Fait que les brèches de sécurité vont apparaître éventuellement.
Bon, c'est déjà un défi à la sécurité au niveau de l'appareil gouvernemental américain. Fait que déjà, là, tu mets le monde au chômage forcé. Ça ira nécessairement pas bien. Là. Fait que c'est pas une bonne nouvelle pour l'ensemble. Puis je trouve que c'est un peu négligent de la part des différents partis dans ce cas-ci qui s'amusent à tenir le shutdown trop longtemps ou en tout cas à mettre hors portée des budgets spéciaux pour faire vivre ce genre de choses-là. Fait que je trouve ça un peu négligent et un non-respect général. C'est comme dire qu'on s'en fout, on ne paye plus les employés qui gèrent l'électricité parce qu'on n'a plus d'argent, tant pis, sécher, puis le réseau électrique, il tombera, puis c'est pas grave, puis ça n'a aucune conséquence pour personne, puis c'est pas grave. Cela étant, passons aux compagnies aériennes.
Ah, les fameuses compagnies aériennes, je veux dire, les compagnies sont bons, je veux dire, ils font le travail, ils circulent du premier à travers la planète, ça va bien. Mes systèmes de réservation, par contre, qui datent des années 60, 70, dont Amadeus, qui pas loin de la moitié des flottes aériennes, des compagnies aériennes à travers le monde dépendent pour nous faire voyager. Ça n'a pas été rénové ben encore. Là. C'est encore du patching et du refignolage. Puis je dis tout le temps que ça tient par de la broche et du tape. C'est vraiment ça, la façon que ça se fait fonctionner, parce que c'est des systèmes des années 60 qui ont été mis ensemble et qui ont été rebootés, rajoutés, réinterconnectés, re-engineered pour être capable à ce moment-là que tous et chacun, on puisse avoir une certaine forme de transparence, d'interconnectivité entre les compagnies aériennes. Et croyez-le ou pas, encore aujourd'hui, bien, c'est ces vieux systèmes-là qui marchent quasiment à lampe, qui sont en fonction et qu'à chaque fois que vous allez à l'aéroport, bien, c'est vraiment une roulette russe que ça va marcher. C'est drôle à dire, là. Mais c'est toujours un fix on failure, ces organisations-là, malheureusement. Et on se retrouve présentement à ce qu'on a... juste un instant, bon, je retrouve ma fonctionnalité. On se retrouve avec les capacités vraiment amoindries, parce que quand je parle de capacité amoindrie, on l'a vu dans les dernières années. Je pense que l'année passée, ce n'est pas en 2017, il y a eu que... une douzaine de pannes avec ces systèmes de réservation-là qui en résultent à ce qu'on est pris dans l'aéroport. Puis là, on parle avec des grosses compagnies. Là. Il ne s'agit pas des Air Banana, ces affaires-là. C'est Air France, British Airways, Islandair, Qantas, Air Canada. Et c'est quand même des transporteurs qui sont mondiaux, mais que, tabarnouche, tout le monde est pris ou est-ce que ça c'est facile après ça d'aller... quand je dis c'est facile jusqu'à un certain point, là, ça devient facile pour que ça déraille. Mais qu'est-ce qui en résulte par la suite, là, c'est ça qui est compliqué. Fait que, je le dis souvent, ça devrait être criminel, ces compagnies-là, encore une fois, qui devraient refaire vraiment le devoir. C'est complexe de refaire un système de réservation mondiale comme ça, je suis d'accord. Mais l'AITA, donc le CSHL est à Montréal, devrait voir un projet de réforme complète du système de réservation pour que ça soit, une fois pour tout, réglé, moderne, fiable, et empêcher que ça déraille, mais qu'à ce moment-là, on en est encore une fois pris avec l'inévitable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, gars.
Mais moi, pour l'essentiel, c'est une notion d'infrastructure. C'est comme l'entretien de nos ponts, de nos routes, de ces choses-là. L'entretien des systèmes informatiques, aussi privés qu'ils soient dans leur utilisation, il demeure que, comme un système comme celui-là, qui est quand même mondial et majeur, c'est une infrastructure qui est semi-publique, on pourrait dire. Puis à ce moment-là, cette négligence-là devrait être punie au même titre que la négligence d'entretien de toutes les infrastructures, les routes, les ponts. Et là, Vincent va intervenir.
Ben, c'est comme notre bon système de paye Phoenix au gouvernement fédéral.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est pas à l'échelle internationale comme ton système de réservation, mais on a mis les couteaux à on sur un système qui fonctionnait pas, puis qui fonctionne toujours pas, puis qui a des répercussions sociales sur des aides humaines.
Bien, ça, c'est encore une fois, c'est des gestionnaires qui ont pris une décision, qui ont voulu à tout prix faire le projet, que ce soit une réussite. Mais ces gestionnaires-là, justement, ils ont même passé dans le tordeur, puis eux autres, ils ont eu le bonus. Ça a été documenté puis publicisé, là, tu sais.
Tu vois, ils ont bien fait leur job, ils ont eu un bonus.
Ah, t'as raison. Patrick, pourquoi on est négatif de même?
Corps, je sais pas. Tu es positif, Chris.
Ouais, il faut arrêter.
Mais... il y a tant de choses positives. Quand même, Windows 7 est encore en utilisation dans beaucoup d'endroits, puis ça fonctionne très bien par ailleurs, mais quand même...
Absolument. Puis Vincent, je veux te questionner là-dessus. Comment est-ce que tu en vois encore des compagnies qui Windows 7 est encore en avant-plan et que l'outil principal?
Pourquoi c'est pas expliqué?
En fait, je peux pas nommer les compagnies.
Mais non, on veut pas ça. On veut des chiffres.
Mais il y en a. Écoute, il y en a. Il y a. Ah, oh, tu veux des chiffres? Tu veux des chiffres? Oh,
non, mais on s'en parle comme ça. Je veux dire,
je vais dire au moins deux.
On dit que c'est encore la moitié de la flotte qui existe.
Ah, Windows 10,
il dit qu'ils ont été intégrés partout, mais j'en doute, non? Mais c'est quand même beaucoup.
En fait, je comprends que tu fais du déploiement. Hein, on a discuté tantôt, on a fait un huis clos, on va appeler ça de même. Écoute, j'en ai fait du déploiement. Faire une image, tester l'image, tester des applications. Entre vous et moi, là, mettre du monde une couple d'heures par année là-dessus. C'est pas vrai qu'on est en retard de 5 ans après sur les déploiements, sur les versions. C'est pas normal. On met pas les priorités aux bonnes places. C'est juste ça. C'est pas plus compliqué que ça. Les priorités sont pas aux bonnes places. La sécurité fait pas partie de ces priorités-là. On paie même des suppléments à Microsoft pour le maintien puis le développement des mises à jour nécessaires pour rester à niveau. Puis là, après ça, on va arriver. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prépare notre setup pour le déploiement Windows 10. Ben non. Microsoft va faire de l'argent avec nous autres. On va le déployer. Mais le Windows 11, 12, 13, 14, bon, je dis n'importe quoi, là. On va continuer à payer pour des retards de patch pour le maintien, justement, du parc au lieu de se mettre à jour puis de se donner un coup de pied dans le cul puis
de faire le déploiement. Si tu ajoutes par-dessus ça, il y a certains déploiements au gouvernement qui ont pris 3 ans. Puis tu as certaines compagnies qui ont fait le même déploiement avec 100 fois plus de postes en 3 mois. Il y a beaucoup d'autres questions en jeu que juste le fait que les priorités ne sont pas là, malheureusement.
Moi, j'ai vu les deux. Toi, tu as vu au gouvernement. Moi, j'ai vu des entités privées qui avaient tout avantage à faire leur déploiement beaucoup plus rapidement. Puis qui sont encore pognés avec du Windows 7. Hey, j'en ai pogné une, là. Come on, là. Un Windows 2000 qui roule encore, là. OK, Windows 2000, c'est mon opinion. Ceci n'est que mon opinion. C'est probablement un des Windows les plus stables que j'ai vu.
Oui, c'est vrai. Ça veut pas dire qu'il est sécuritaire, par exemple.
Mais il était léger, il roulait très bien. Il y a encore des compagnies qui ont décidé de développer dans le contexte de Windows 2000 pour leurs progiciels, que ce soit Legacy, les solutions qu'ils ont décidé d'adopter, où ils étaient limités au niveau du versioning, là. Mais bon, tu sais, c'est des décisions d'affaires.
Mais tu sais, si on veut parler de vieilles instances qui roulent, si vous voyagez un peu dans les aéroports, le trois quarts des kiosques où ce que tu fais ton check-in, soit à l'avant de l'aéroport ou direct à la gate, ils sont tous en XP ou en 2000. C'est extrêmement vieux. Là. Du Windows 7, c'est très, très, très récent là, pour ce genre d'environnement-là. Puis dès que tu tombes dans du concept de gros IoT, tu sais, toutes les ATM, les trucs de banque, les whatever kiosques indépendants dans des centres d'achat, c'est tout super vieux de plusieurs années. C'est malheureux, mais c'est géré par des contrats qui, la sécurité n'est pas là parce qu'il manque de priorité, entre autres. Là. Mais il y a beaucoup de ces instances-là, comme les aéroports, que l'impact peut être énorme en termes de risque de sécurité là, si quelqu'un décide de mettre du temps sur ça.
Ben, c'est un peu partout comme ça aussi. Là. Puis de toute façon, on a fait une référence tantôt, on y revient, les réseaux électriques canadiens-américains est quand même problématique.
Ben, problématique. Il est toujours préoccupant de savoir que, encore une fois, des instances étatiques sont capables, à distance, d'être capables de fermer un switch, comme on dit. On le voit deux fois, je veux dire, les Russes pratiquent en Ukraine. C'est souvent ça qui est retenu comme leçon à la suite d'avoir shut down l'électricité de l'Ukraine à deux reprises. Et il y a certaines boîtes certaines boîtes privées qui apportent la problématique ou plutôt l'observation du fait que les Russes ont commencé à venir cogner à nos portes, les Chinois aussi. Puis ça, c'est pas d'hier, mais il reste toujours bien que... Pardon?
Ça date de quand même loin. Il y avait eu des nouvelles de ça dans le coin de 2008.
Là,
Et même avant ça, évidemment. Là,
je sais plus. On pourra faire une émission spéciale si vous voulez là-dessus, parce que même encore avec la panne de 2003, d'août 2003, je maintiens que c'est pas juste un hasard qu'il y avait des virus que les Chinois, une boîte de développement chinoise ont mis sur le marché, qu'un un jeune Américain a repris, puis ça s'est virulemment propagé pour ralentir les interventions des sous-stations pour faire l'équilibrage de charge, et que la GRC et le FBI ont déclaré que non, ça n'avait aucun rapport avec la panne, comment large que ça s'est déployé sur 58 millions de personnes à travers l'Amérique du Nord. Ça vient me chercher parce que, justement, c'est un non-sens que ça soit juste des liens téléphoniques qui n'ont pas fait leur job, que c'est juste une branche d'arbre qui a précipité tout ça. Il faut en prendre pas en laisser. Cependant, il reste toujours bien que, autre que l'élément physique qu'on vient de décrire, c'est l'interconnectivité, il y a de plus en plus. Les compagnies électriques sont quand même très bien informées par le NERC et ils isolent. Il faut qu'ils gardent isolés, justement, les réseaux de distribution, transport, des réseaux administratifs. C'est la clé du succès parce qu'en Ukraine, ils avaient fait eux autres le lien, puis c'est une machine Windows qui a été compromise avec un courriel, etc., que les sous-stations avaient été réenclenchées manuellement, tu sais. Fait que c'est là qu'il faut encore une fois garder à l'œil, on parlait de priorité tantôt, garder en tête que c'est de façon primaire la sécurité. Puis combien de fois dans les pentests que la première étape que vous allez faire, c'est soit de faire la requis, autrement dit de la reconnaissance, qui travaille dans l'organisation, puis après ça, comment c'est facile de vous écrire par email, puis après ça, qui stationne pour travailler, pour peut-être laisser traîner quelques clés USB dans le stationnement, tu sais, ça fait pas de mal. Clés USB qui traîne à gauche et à droite, ou bien enfin. Tu parlais, Nico, que tu vas aller rencontrer Damien, puis il va y avoir des shows, des setups de table de compagnie qui donnent des clés USB. Tu sais, c'est des scénarios dans le possible où on peut faire ça avec justement des industriels.
Clés USB, QR code, petite affichette qui va bien. Oui, c'est un pur bonheur.
Voilà. C'est juste pour nommer quelques outils qui ça pourrait s'attaquer justement à des gens d'Hydro-Québec, d'Ontario, Hydro One, tout ça. Là. Mais faut garder en tête que c'est une réalité et notre société est basée sur vraiment l'électricité. Et ça ne prendra pas grand-chose pour déstabiliser la société si on est capable de faire sauter, quand je dis on, c'est les méchants, là, je ne m'inclus pas dedans, mais bien un transformateur, il n'entraîne pas ses tablettes chez Bureau en gros en passant, mais ce sont des pièces d'équipement qui prennent des mois à travailler et ça en vient à ce qu'il y en a qui sont capables de déranger le flot d'électricité. À distance, c'est fatigant.
Oui, effectivement, mais ça, c'est terrible parce que c'est un niveau de dépendance à l'électricité qui fait que si on vit pendant trop longtemps sans cette dite électricité, nous avons un certain problème. Moi, j'ai certains éléments dans lesquels je vais m'équiper de piles, pas celle de Tesla dans ce cas-ci, mais des piles qui vont me permettre de toffer au moins quelques jours sans électricité, pour que mes équipements de base, comme le réfrigérateur, par exemple, soient capables de continuer à fonctionner, et des équipements de base comme ça. Et on ramène, puis toute cette réflexion-là sur l'électricité nous ramène sur le fait de survival, fait que comment retourner, être capable d'être... je pense qu'on a un épisode spécial à faire spécifiquement sur ce genre de choses-là, parce que j'ai des amis qui sont freaks sur ce genre de choses-là ou sont capables de vivre plusieurs mois en dehors des facilités modernes. Donc, il y a comme une zone à aller peut-être explorer à ce côté-là.
Ah, et ça, ça fait bien.
Oui,
j'approuve, j'approuve.
On regardera ça dans les choses, on s'organisera un épisode là-dessus, mais on va continuer avec un autre élément qui est quand même assez, assez primordial dans notre société, les plateformes financières.
Plateformes financières dans le sens de qu'est-ce qui gère au quotidien les valeurs boursières, puis à un certain point dans nos vies, on aspire surtout à d'aller à une retraite méritée. Et de cette retraite-là, bien, souvent, c'est géré par des fonds des gens qui sont dans le domaine de la bourse. Et il a été repéré que des Ukrainiens se sont infiltrés donc dans les systèmes de la Security and Exchange Commission aux États-Unis pour être capables à ce moment-là de s'en sortir avec 4,1 millions de dollars, faire influencer le trading pour être capable à ce moment-là d'avoir des ristournes intéressantes pour eux. Ce sont deux personnes qui ont été finalement épinglées par la justice américaine et accusées. Ça, c'est un des systèmes qui s'en sont pris au système Edgar pour enregistrer les transactions financières en 2016. Comme on voit encore une fois, ça prend quand même du temps, ça prend des années à être capable de compiler la preuve nécessaire et de s'assurer que ça va aller dans la bonne direction. Mais il y en a une bonne histoire d'un Canadien qui a prouvé comment est-ce que c'est facile de faufiler un peu pour bypasser les moyens techniques de validation des transactions. C'est un ancien trader de la Banque royale du Canada qui travaillait à New York. Et que lui s'est donné à m'amener le travail, juste une petite anecdote comme ça, d'aller valider que, il se rendait compte qu'il envoyait des ordres de transaction et la compétition l'avait toujours en avant de lui. Et il passait par un intermédiaire avant de se rendre jusqu'au board pour faire les transactions financières. Bien, celui-ci, c'est Michael Lewis, son nom, qui à ce moment-là, c'est-tu Michael Lewis? Non, c'est pas lui. On va retrouver le nom du bonhomme, là, ce ne sera pas bien long. Tout ce qui était fait, lui-là, il dit, Bernouche, attends un peu, là. Si à tous les fois, ma compétition sont en avant de moi et sont toujours capables d'aller me devancer dans mes demandes, attends un peu, là. On va faire un test. Fait que lui, c'est ça, c'est Brad Katsuyomaya. Et Brad, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est étonné de voir ça, qu'il y avait toujours un avantage indu. Et ces gens-là, Brad, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a rien, ni un ni deux. Il a juste tiré un câble de fibre optique de son bureau de transaction direct, plugué sur le Nasdaq, sur Dow Jones. Et par les quelques millisecondes que sa transaction passait par un intermédiaire, il était capable de valider que justement, les transactions étaient épiées et à ce moment-là, elle donnait un avantage indu à la compétition. C'était quand même assez fascinant et autant les finances sont regardées de façon très serrée pour autant la conformité des traitements, etc. Il y en vient toujours bien que quand on parlait tantôt que la sécurité est une option, elle est souvent regardée en dernier lieu, encore une fois, et les systèmes financiers comme ça n'en sont pas exempts. Parce qu'il y a un peu plus de vérification serrée, autrement dit, de comment ça se passe, ils sont capables de repérer plus facilement la fraude vraie. Mais il reste toujours bien, comme dans cet exemple-ci, qui ont été capables à ce moment-là de mettre le temps pour être capable de comprendre les failles du système et de les exploiter. Fait que c'est pas parce que c'est un système financier, c'est plus sécuritaire qu'un autre. Je veux dire, il faut qu'il y ait une vérification plus fréquente, tant qu'à moi.
C'est très avancé comme attaque en plus, hein, c'est intéressant.
Il y a toujours des attaques avancées. C'est sûr que quand on a parlé d'APT, puis que, par ailleurs, les APT n'étaient pas nécessairement très avancés à ce moment, ils l'ont dit.
Non, c'était juste persistant. Il n'y avait rien de nouveau en même temps.
Rien de nouveau, puis à ça, c'est juste parce que les différents acteurs d'agression, c'est juste parce qu'ils s'y connaissent mieux, mais tu veux dire, c'est comme dans toute chose, ce qu'on ne voit pas, il n'est pas répertorié. Donc, les vraies menaces avancées ne sont pas répertoriées parce qu'on ne les voit pas.
Et on se retrouve exact, comme la belle phrase qui dit les hackers qui viennent se faire arrêter. « Ah, il est incroyable, il a fait telle chose. » Non, il est poche, il a fait arrêter.
Ben, c'est en plein ça. Les bons ne se font pas prendre. C'est tout ça le problème. Donc, tous les pays qui sont excellents dans ce qu'ils font ne se font pas prendre dans ce qu'ils font. Donc, puis en ce sens, je crois que la Russie, ces temps-ci, ne va pas beaucoup apprécier de se faire pointer du doigt comme étant un acteur principal du fake news et ainsi de suite. Fait que je pense qu'ils vont essayer de ramener la, faire un effet de diversion puis ramener l'élément ailleurs. Parce que quand que le regard est sur toi, quand l'œil de Sauron est sur toi, c'est jamais agréable. Puis quand tu fais de la désinformation, des choses comme ça, généralement, tu essaies de ne pas avoir l'œil de Sauron sur toi. Donc, on regardera ce genre de choses. Ça termine pour les nouvelles pour cette semaine. On a quand même eu une semaine très, très, très chargée. Un épisode tout à fait excellent, comme d'habitude, mais d'une très grande densité. Et je pense que ça ne relâchera pas pour 2019. On va continuer à avoir une année qui est en sécurité, qui est, mettons, rocambolesque. J'ai certains participants qui font des images, qui font des éléments intéressants visuellement, mettons. Cela étant, messieurs, un mot de la fin chacun.
Habituellement, c'est Damien qui fait des niaiseries, mais là...
Ah, voilà, ça y est. Moi, je suis un russe, en fait. On me montre du doigt. Hein. Pas...
Non, c'est pas... ma gang de fous. Cela étant, on vous souhaite une excellente semaine. Moi, je suis avec Damien dans la semaine qui s'en vient. Fait qu'on va avoir des épisodes très intéressants, des nouvelles très intéressantes à ramener. On vous continue pendant des épisodes. En tout cas, on est sorti de plein d'épisodes spéciaux qui vont sortir de cet épisode-là puisqu'on a plein de sujets qui en sont sortis des parallèles. Donc, on nous souhaite une excellente semaine. Soyez tâchez d'être en sécurité le plus que vous pouvez.
Et je pense qu'il faut aussi particulièrement remercier tous les auditeurs qui nous écrivent quand ils nous croisent. À première vue, vous êtes nombreux à nous écouter. Et je pense qu'on veut vraiment merci.
Yes, merci tout le monde et à bientôt.